Résonance rocheuse. Résonance. Résonance rocheuse. Avec Laurence Martin, artiste sculptrice fondatrice de la ferme de Tétis. Pier Paolo Brenna, conservateur à la réserve nationale de Ristola-Montviso. Et Julien Godefroy, géologue et géomorphologue à l'ONF. À la découverte des roches des Hautes-Alpes et leurs secrets. Création d'Aline Claire, dans le cadre du projet Épilogue porté par Bienvenue là-haut. Diffusion tous les lundis à 18h.
La particularité de la case déserte, c'est quand même ses carnioles. Les carnioles, c'est ce qui forme les grands affleurements rocheux qu'on peut voir au-dessus de la route. Ce sont des roches qui sont très anciennes, donc elles datent du Trias, donc c'est entre 250 millions d'années et 200 millions d'années. C'était bien avant que la chaîne alpine, comme on la connaît, là, que tout le massif du Kérail, il existe. C'était une époque où en fait il faisait très chaud, on avait un climat qui était très chaud et très humide, et c'était plutôt une plaine, on va dire, ici. Donc c'était des endroits où il y avait des petites étendues d'eau qui étaient très très chaudes. Et en fait, dans ces étendues d'eau, se sont formées des roches qui sont à la fois de la dolomie. Donc la dolomie, c'est des roches sédimentaires. Donc c'est les petits coquillages qui sédimentent et du coup qui forment de la dolomie. C'est très similaire au calcaire, sauf que pour la petite info, dans les dolomies, on a un élément chimique qui est en plus, c'est du magnésium. Ce qu'il n'y a pas dans les grandes falaises calcaires qu'on peut avoir, par exemple, à l'entrée des gorges, ou même dans les gorges du Guil. Là, pour le coup, la dolomie, elle s'est formée dans des étendues d'eau qui étaient très chaudes, pas très profondes. Et à côté de ça, c'est formé du gypse. Donc le gypse, c'est comme le sel, c'est une roche évaporitique, qui se forme du coup par évaporation de l'eau, qui contient du sulfate. Et en fait, le fait d'avoir ces deux roches à proximité, donc une fois que toute l'histoire de l'océan alpin, de la surrection des montagnes alpines, etc., s'est produite, et il se trouve que lorsqu'il pleut sur le gypse, l'eau qui ruisselle, elle va se charger en sulfate, et en fait cette eau sulfatée, elle va venir attaquer la dolomie. Et en fait c'est ce qui va rendre l'aspect de la carniole, une roche qui est très poreuse, qui se délite facilement, qui est très friable, très érodable, et qui forme des gros piliers ruiniformes, là, comme on peut voir à la case déserte. Donc c'est vraiment les paysages lunaires, comme on appelle ça à la case déserte, typiques de l'érosion de la carniole. On peut aussi observer les phénomènes un peu de dissolution du gypse. Si on regarde vers le col ici, on peut voir qu'il y a des espèces de petites dépressions, des trous qui se forment dans le versant. C'est des poches de gypse qui sont dissoutes par l'eau. Ça fait des affaissements en fait dans le versant. On peut en voir au niveau du col. On en a aussi au niveau du sommet bûcher et au niveau du lac de Roux. Si on se promène un peu dans la forêt du lac de Roux, on peut voir ce qu'on appelle des entonnoirs de dissolution du gypse. C'était vraiment des poches de gypse qui ont été dissoutes et du coup ça fait des gros trous assez impressionnants. Certains pensaient que c'était des obus qui avaient explosé pendant la guerre. Ce qui est intéressant à la case déserte, c'est que donc, ces roches qui sont datées de 250 millions d'années à 200 millions d'années, en fait elles se trouvent au-dessus de roches qui sont plus jeunes. Parce qu'en fait, toute la chaîne du roche brune, tout le massif, en fait c'est ce qu'on appelle une plaque chevauchante, ou une nappe de charriage pour certains. C'est justement ce gypse qui a servi de lubrifiant, de couche savon. Et donc en fait, on a de grandes couches de dolomie du Trias qui sont passées par-dessus plein de roches qui étaient beaucoup plus jeunes. En fait, c'est lorsqu'il y a eu la collision alpine, donc vraiment que les deux plaques continentales lors de la fermeture de l'océan alpin se sont rencontrées, la plaque plutôt africaine et la plaque européenne. Ça a créé une surrection et ce phénomène de poussée entre les deux plaques, ça a permis à certaines entités géologiques, on va dire, de glisser les unes sur les autres, alors par des jeux de fractures, de failles, et aussi grâce à cette lubrification par le gypse. On a des grands ensembles qui sont montés les uns sur les autres. Toute la nappe du roche brune, C'est un cas typique de nappe de charriage, et donc ça explique pourquoi on a des roches beaucoup plus vieilles qui sont sous des roches qui sont plus jeunes. À la case déserte, on peut aussi faire de la géomorphologie. Par exemple, on peut vraiment identifier des choses très simples, c'est-à-dire qu'on voit des affleurements rocheux, des parois rocheuses tout en haut. C'est du dur, elles matérialisent les crêtes. En dessous, on voit leur érosion, parce que du coup, on a de grands éboulis, de grands tabliers d'éboulis, on appelle ça, qui se sont formés à leurs pieds. Donc c'est vraiment juste l'érosion de la roche qui entraîne ces fracturations de la roche, notamment par les cycles de gel et dégel. On a de l'eau qui s'installe dans les fissures de la roche, et puis l'eau, en gelant, en fait, elle va venir gonfler les fissures. Du coup, ça va fracturer encore plus la roche. Il y a des petits éclats qui peuvent partir. Et en fait, tout ça, ça va permettre d'alimenter ces grands éboulis. L'avantage d'être ici à la case déserte, c'est qu'on a un bel exemple aussi de tout ce qui est cru torrentiel. On peut voir dans les éboulis des formes de ravinement. Donc on voit qu'il y a de l'érosion torrentielle, cette fois, qui est venue inciser les zones. C'est ces petits ravins, en fait, qui, lors d'orage, vont produire ces grosses coulées de boue qui vont arriver sur la route. C'est pas prêt de s'arrêter parce que la route, elle est vraiment au pied des éboulis. Donc forcément, dès qu'il pleut, ça fait un peu comme des phénomènes de chasse d'eau, ou quand on met un jet en fait, sur un tas de sable, hein, on érode tout. Donc ça, c'est typiquement ce qui se passe ici. En géomorphologie, on peut voir peut-être aussi des histoires de pentes. Donc on a des zones qui sont vraiment très raides, où la végétation va avoir du mal à s'installer, avec des zones qui sont peut-être un peu moins raides, et du coup la végétation peut s'installer. Elle arrive à tenir. On a également des traces de passage des glaciers, donc une vallée qui est très ouverte, avec des versants qui sont vraiment ce qu'on appelle en auge, hein. C'est typique du coup des vallées glaciaires. On va apercevoir de la moraine glaciaire. Par exemple, à la case déserte, tout ce qui est le massif du Roche-Brune, voilà, je peux parler de traces de glaciers. Donc on n'a plus de glaciers blancs comme on peut avoir dans les écrins, par exemple. Mais par contre, on peut avoir des glaciers rocheux. Donc les glaciers rocheux, c'est des zones dans les éboulis qui sont encore très gonflées. On peut les observer sous le Roche-Brune, il y en a encore beaucoup. Et donc soit c'est des glaciers rocheux qui sont actifs, donc il y a encore de la glace dedans, soit c'est des glaciers rocheux inactifs, soit encore des glaciers rocheux fossiles. Mais bon, là je rentre peut-être un petit peu dans les détails. Mais dans tous les cas, en fait, ces glaciers rocheux, c'est dans les éboulis. On peut observer vraiment des formes de lobes qui montrent que voilà, ça c'est typique d'un glacier rocheux. Depuis là où on est à la case déserte, il n'y en a pas d'apparent, mais en fait il y en a juste derrière la barre rocheuse qu'on a au-dessus. On a également une érosion torrentielle, avec le torrent de l'Isoire qui fait vraiment une belle vallée en V, sous une vallée en U. Donc ça c'est vraiment typique, la vallée en U glaciaire et la vallée en V torrentielle.
Vous venez d'écouter Résonance rocheuse par Aline Claire.